journal, Camille Parsi. Bonjour Camille.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Pas de troisième étoile pour les Bleus, fin de l'aventure au Mondial face à l'Espagne.
Et oui, il n'y aura pas de finale de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Les Bleus et tous leurs supporters sonnaient ce matin après une soirée cauchemar à Dallas, défaite 2-0 face aux Espagnols. La fin du rêve pour les Bleus, pourtant donné grand favori de la compétition. Ça n'aura pas suffi à faire tomber la Rora et en Corse, à Bastia, le match aussi a été très suivi. Mathieu Bourigny, vous étiez sur la place Saint-Nicolas.
En ce 14 juillet, en ce jour de fête nationale, on attend de nos petits bleus qu'ils nous offrent un feu d'artifice.
L'ambiance était plutôt détendue juste avant le match. Parmi les nombreux supporters des Bleus, la confiance régnait.
Ouais, ça va, en vrai. L'Espagne, c'est une bonne équipe, mais la France, on est supérieur. Un petit soit 2-1, soit 3-2 pour la France.
On a une équipe qui est bien plus forte que l'Espagne, hein, à mon avis. Je pense qu'on va gagner quand même. Hein. Mais voilà, je sais contre l'Espagne, j'ai encore le match en tête qu'on a eu la dernière fois qu'on a perdu.
Une défaite contre les Espagnols déjà à l'Euro 2024, toujours dans les mémoires. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué à la 22e minute avec le but d'Oyarzabal.
Le match commence très mal pour la France. On n'arrive pas trop à trouver les situations qu'on aimerait. Après, voilà, je pense qu'on va réussir quand même à remonter. Il reste encore 70 minutes pour le match. Donc voilà, ça devrait le faire.
Et à la 58e, les Espagnols ont douché les espoirs français.
Non, je sais pas quoi dire. J'y arrive pas là. Depuis tout à l'heure, ça, y a rien qui marche, combinaison qui marche, mais là je suis dégoûté pour l'instant.
Les Bleus n'ont jamais pu rattraper leur retard à la fin du match. Les mines auparavant enthousiastes étaient tristes.
Bah, j'ai qu'un mot à dire, hein. Je suis déçu pour tout ce qu'ils ont fait pendant toute cette coupe. Je trouve que ce qu'ils ont fait là dans ce match, voilà quoi. Ouais, c'est dur.
Voilà, les Bleus qui pourront peut-être se consoler samedi avec la troisième place. Ils joueront face aux perdants de l'autre demi-finale Angleterre-Argentine qui se déroulera ce soir. Pour ceux qui étaient plutôt team feu d'artifice hier soir, vous avez sans doute noté plusieurs annulations de feux dans des communes du sud, notamment à Cozzano, au Tapiano, à Propriano, au Serra di Fen ou encore Vico, en raison du risque incendie élevé. À ce sujet, le feu est toujours actif à Albertach où plus de 150 hectares ont été parcourus par les flammes. Des renforts sont attendus du continent ce mercredi avec l'arrivée d'une colonne de 80 sapeurs-pompiers. La circulation est également interdite sur la RD 318 en direction de Calasim. L'accès à la forêt communale aussi est fermé. Aucune habitation n'est en revanche menacée, indiquent les autorités. Dans ce contexte, un nouvel épisode caniculaire. La Corse, toujours placée en vigilance orange aujourd'hui. Un épisode qui s'annonce durable, des températures localement attendues à 38 degrés. Et sur le terrain, chacun s'organise comme il peut pour supporter cette vague de chaleur. Exemple avec ces témoignages recueillis par Patrice Roubaud à Ajaccio.
Eh bien, on se dit que ça va être très très long la journée et très fatigant. On va dessécher sur place. L'impression que c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de canicules, ça dure plus longtemps, c'est beaucoup plus rapproché. Très pénible pour le corps, pour tout le monde, pour l'esprit.
C'est un peu dur, c'est normal. Short et débardeur.
J'avais prévu d'aller marcher ce matin. J'ai opté pour la salle. Moi d'habitude je vais marcher à 6h30 et ce matin déjà il faisait très chaud à 6h30.
Mais il faut rentrer là c'est l'heure.
C'est ça, on a fini.
Mais non, il faut juste bien s'hydrater et tout se passe bien.
Donc en fait on a quelques petites astuces face à la canicule.
Nous venons de faire le musée dans lequel il y avait un super airco. Et maintenant, voilà, une petite église bien fraîche, bonne petite bière.
Bouteille d'eau et puis des petits pulvérisateurs.
En revanche, il ne faudra pas compter sur la visite du parc aquatique Aquafiesta Sarro-la-Carcopine. Il est fermé jusqu'à nouvel ordre, une mesure de précaution de la préfecture après l'admission de 9 enfants à l'hôpital d'Ajaccio la semaine dernière pour des troubles digestifs sévères. La piste privilégiée à ce stade est une contamination au rotavirus qui serait survenue sur le site le 9 juillet dernier. Un contrôle sanitaire doit avoir lieu dans les tout prochains jours pour déterminer les circonstances exactes de l'infection.
Toujours à Ajaccio, 70 appartements vacants remis sur le marché d'ici la fin de l'année.
Oui, c'est ce qu'annonce l'Office public de l'habitat de la CAPA après la visite de plusieurs logements vacants dans le quartier de Saint-Jean. Une visite pour montrer la réalité d'un parc vieillissant alors que plus de 3000 demandes de logement social sont enregistrées sur le territoire, Jeanne Souris.
Cuisine à refaire et peinture défraîchie. Dans ces appartements vacants de Saint-Jean, les travaux sont indispensables avant l'arrivée de nouveaux locataires. Une remise en état que l'Office public de l'habitat espère finaliser dans les prochains mois, comme l'explique son président Antoine Hortol.
Nous espérons livrer ces premiers logements avant la fin de l'année. Nous allons commencer la réhable des appartements qui nécessitent le moins de travaux pour pouvoir les remettre sur le marché. Et ça passe aussi par une commission d'attribution plus fréquente. Donc s'il faut faire une commission d'attribution pour 3 logements, on le fera. L'idée, c'est que dès qu'un logement est prêt, c'est qu'ils soient occupés.
Aujourd'hui, l'Office compte 264 logements vacants sur les 2353 qu'il gère. L'enjeu de ces premières réhabilitations est donc de mieux exploiter le parc qu'il possède, comme l'explique Stéphane Eusbradja, président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien.
C'est une opération qui se veut être une impulsion. On a essayé de rappeler aujourd'hui quelles étaient les différentes contraintes qui pouvaient ralentir, je dirais, un dynamisme. C'est un territoire qui est extrêmement tendu sur le logement à créer, sur un parc immobilier qui est vieillissant, qui est parfois très inadapté ou inaccessible. Commençons par ces 70 logements. L'idée, c'est effectivement d'avoir un effet d'entraînement vertueux.
Cette première phase de réhabilitation représente un investissement d'environ 1 million d'euros, mais le chantier reste encore important, avec 194 logements vacants à traiter dans les prochaines années.
Enfin, Camille, on fêtait hier un autre 14 juillet.
Oui, le 14 juillet 1755, au couvent Saint-Antoine de Casabianca se réunissait une consulta pour élire le futur général de la nation corse. Et le 15, c'est Pasquale Paoli qui fut choisi, moment phare de l'histoire de la Corse. Alors, 271 ans plus tard, que reste-t-il de cet héritage? Réponse avec l'historien Antoine-Marie Graziani.
Il y a beaucoup de choses à creuser, parce qu'en fait, on est en retard sur beaucoup de domaines. Dans la lecture qu'on effectue des événements, on est en retard. Par exemple, comment ça fonctionne dans le sud de la Corse? Quelle est la vision réelle du pouvoir génois par rapport à Paul? Comment il ressent les choses, etc. On a des éléments, mais on n'a pas la vision d'ensemble. Donc, on a du mal à bien expliciter, d'une certaine façon, ce qu'est le moment particulier qui est le 14-15 juillet 1755. Même si, moi, je regarde l'histoire, c'est quelque chose qui est continuellement en mouvement, sur y compris des choses qu'on connaît tous, qu'on a rencontré 50 000 fois, qui ont été expliquées des dizaines de fois. Vous avez des lectures qui peuvent être des lectures différentes, parce qu'en fait, dans la réalité, on découvre continuellement de nouveaux documents qui permettent de mieux comprendre, d'une certaine façon, les événements.
Antoine-Marie Graziani, il était au micro de Mathieu Bourigne.